Bon, donc on va passer à la partie, ça marche ça, oui. La partie séminaire du cours. Et aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Olivier Bourgeois. Donc Olivier Bourgeois est un spécialiste de l'ingénierie des phonons dans les nanostructures et du transport de chaleur à l'échelle nanométrique. Il a fait sa thèse au CRTBT, il ne s'appelle plus CRTBT maintenant, non, mais ce qui s'appelait à l'époque le CRTBT. Donc vers la fin des années 90, et ensuite il a fait un postdoc à San Diego, dans le labo de Bob Dines. Et depuis son retour des États-Unis, il est à Grenoble, à l'Institut Néel, donc, et responsable de l'équipe thermodynamique des petits systèmes. Et donc il va nous parler aujourd'hui de phonons et de physique thermique à l'échelle nanométrique.
Voilà, merci Antoine. Ben, je remercie déjà Antoine Georges pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter ces travaux expérimentaux ici. Donc, ce que je vais vous montrer pendant ce séminaire, c'est tout le travail qu'on fait déjà depuis une dizaine d'années sur les mesures thermiques à petite échelle et en particulier des mesures de conductance thermique sur des nanophiles, avec pour objectif de comprendre le transfert de phonons à l'échelle du nanomètre, à basse température. Donc on va étudier différents types de systèmes, des nanophiles suspendus, on étudie aussi des membranes, des systèmes type cristaux phononiques, soit de ce type-là, soit de ce type-là. Et je vais vous montrer un peu l'objectif qui était le nôtre, était de manipuler les transferts de chaleur, et en particulier de pouvoir bloquer la chaleur. Ça, c'est un concept qui est intéressant pour la thermoélectricité. Et je montrerai quelques applications à la fin. Donc, le plan, après une introduction où je vous explique les motivations et ce qu'on appelle, nous, la nanophononique, je vais décrire d'abord un peu l'histoire des phonons et des mesures thermiques. Ensuite, je vous présenterai les techniques expérimentales qu'on utilise pour faire ces mesures de transfert de chaleur dans des systèmes où il n'y a pas d'électrons, hein, puisqu'on s'intéresse qu'aux phonons, avec le modèle important pour ce type de transfert de phonons, qui est le modèle de Casimir-Zeeman. On parlera coefficients de transmission et transport balistique. On verra dans quelles limites se trouvent nos systèmes quand on fait du transfert thermique. Et puis, dans la dernière partie, je vous parlerai de manipulation de la chaleur, comment on peut faire de l'ingénierie des nanophiles à basse température pour aller manipuler la chaleur et bloquer la circulation des phonons. Et puis, en conclusion, ça permettra de faire le lien avec ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, comment on va pouvoir, avec un certain nombre de nouveaux dispositifs qu'on est en train de fabriquer, aller faire ces mesures dans le régime totalement balistique, dans le régime quantique. Donc, les motivations, généralement en physique du solide, en particulier en physique mésoscopique, on comprend bien la physique des électrons, c'est quelque chose qui commence à être très très bien maîtrisé. Pareil en photonique pour les photons. Et un peu le parent pauvre pour l'instant, c'est la physique des phonons, où on va voir pourquoi dans la suite. Il est difficile de les manipuler, et il est difficile donc de pouvoir mesurer leurs propriétés et pouvoir comprendre les mécanismes liés à les mécanismes qui vont donner leur transmission. Donc ces phonons sont très importants, en particulier dans la thermoélectricité, puisque avec les électrons, comme on l'a vu précédemment, la nanostructuration va pouvoir permettre d'améliorer ou de booster les propriétés thermoélectriques des matériaux. Donc on va s'intéresser à ces phonons qui sont à la fois responsables du stockage d'énergie dans les mesures de chaleur spécifiques ou du transfert d'énergie dans les mesures de conductance thermique. Alors, la science qui traite de ces phonons à l'échelle du nanomètre est appelée la nanophononique. Et on va voir qu'il y a toute une communauté qui est en train de se structurer autour de ces concepts. Alors, d'où vient le terme phonon et quel est un peu l'historique de cette quasi-particule? Après les théories de Debye et Einstein qui ont permis d'expliquer les mesures de chaleur spécifiques à basse température dans les solides, suite à des expériences d'interaction de la lumière avec la matière, deux personnes ont proposé l'existence d'une nouvelle quasi-particule, c'est Igor Tam et Jakob Frenkel dans les années 30, au début des années 30. Et puis, comme cette quasi-particule était à la fois responsable des transferts de son et des transferts de chaleur, ils ont proposé de l'appeler phonon, qui vient de phoné en grec, décrivant bien cette quasi-particule. Donc en fait, les phonons, c'est la quasi-particule qui traduit la quantification des modes de vibration dans les solides. Et dans le cas, par exemple, de la diffusion Brillouin ou de la diffusion Raman, en fait, des photons vont interagir avec un phonon à basse température et vont interagir avec un phonon dans ce type de système. Et ce sont les phonons qui vont expliquer ces diffusions. Donc, comment on comprend l'existence d'un phonon ? Je vais faire vite parce que je pense que vous êtes tous très très au fait de tout ça. Donc, on va décrire les solides par une succession de masses liées par des ressorts. Et quand on calcule l'équation décrivant les mouvements de ces masses, on va, en prenant en compte la raideur de ces ressorts et la masse de nos petites particules, on va être capable d'écrire la solution de cette équation sous forme d'onde plane, et on va être capable de relier la fréquence et le vecteur d'onde à travers cette équation qu'on appelle la relation de dispersion. Et ça, ça nous permet de définir un mode de phonon ici qu'on voit ici. Ce sont les modes acoustiques et ce sont des modes qui sont extrêmement importants puisqu'à basse température, on va essentiellement traiter les modes acoustiques. Donc, ce qui est intéressant aussi, puisque ça va jouer un rôle important, c'est la vitesse de groupe qui va donner le fait de savoir si ces modes sont des modes propagatifs qui vont propager la chaleur ou au contraire ne pas la propager. Et donc, cette vitesse de groupe est une valeur extrêmement importante. Et donc, on voit qu'en bord de bande, cette vitesse de groupe va être faible. Donc ici, les phonons, on peut transporter la chaleur, alors que dans un mode acoustique, à faible vecteur d'onde, ils vont être extrêmement propagatifs. Donc, pour faire apparaître d'autres types de modes, il faut s'intéresser à des systèmes un tout petit peu plus compliqués, où on va avoir des masses différentes, par exemple, dans la chaîne monoatomique, ou au contraire des chaînes diatomiques, et puis des constantes de raideur qui peuvent être différentes. Et dans ces cas-là, on va faire apparaître d'autres types de modes pour ces phonons, qui vont être des modes optiques, ici, peu propagatifs, puisqu'on voit que leur dérivée est faible en fonction du vecteur d'onde K, la dérivée de la fréquence par rapport au vecteur d'onde K est faible, et puis on retrouve évidemment nos modes acoustiques. Donc ce qui est très important ici, c'est qu'on voit que les modes optiques vont être uniquement excités quand on a beaucoup d'énergie dans le système, et au contraire, uniquement quand on sera à basse température, on ne pourra uniquement exciter que des modes acoustiques. Donc il existe, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, il existe différents types de modes acoustiques, il y a des modes longitudinaux, modes transverses, et ces modes-là vont tous contribuer évidemment au transfert d'énergie. Donc une autre donnée qui est extrêmement importante pour les phonons, c'est la distribution en énergie en fonction de la longueur d'onde, et de même que pour les photons, on a une distribution évidemment qui n'est pas linéaire, et on a un maximum, on va trouver un maximum de phonons à une certaine longueur d'onde, et ce maximum est donné par une relation qui est ici, qui traduit le fait qu'il y a plusieurs modes, donc on a une valeur plutôt moyenne ici de ce maximum, et cette longueur d'onde maximum est donnée par la vitesse du son divisée par kBt. Cette valeur, si on la calcule à température ambiante, est extrêmement courte, donc on a des longueurs d'onde à l'ambiante qui sont très très faibles, donc il est difficile d'avoir des effets de nanostructuration sur la conductance thermique à température ambiante, il faut structurer le matériau à très très petite échelle. Ça ne va pas être le cas à basse température, puisque quand on va travailler à basse température, cette longueur va augmenter énormément. Et par exemple, pour le silicium, on va avoir des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de grandeur de la centaine de nanomètres autour de 1 Kelvin. C'est pour ça qu'on est capable d'aller manipuler la chaleur plus facilement à basse température qu'à température ambiante. Donc, si on compare, c'est intéressant de comparer en fait, les électrons et les phonons pour se rendre compte. Pour avoir ces longueurs d'onde, pour avoir ces longueurs un peu dans la tête, parce qu'elles sont très très différentes. Donc si on parle, par exemple, si on compare les électrons dans un solide, un métal par exemple, et puis les phonons dans du silicium monocristallin, on va évidemment avoir des libres parcours moyens très très différents, puisqu'ils vont être de l'ordre du nanomètre pour les électrons, alors qu'ils peuvent être du millimètre à basse température. Les longueurs d'onde caractéristiques, comme je l'ai dit, sont plutôt de l'ordre de grandeur de la centaine de nanomètres pour les phonons dans du silicium, alors qu'elles sont extrêmement courtes dans un métal. Et puis, On a des dépendances en température des deux grandeurs thermiques importantes, la conductance thermique et la chaleur spécifique, qui sont très différentes puisqu'on est en T ici alors qu'on est en T cube dans le cas des phonons. Et ce qui nous amène à discuter évidemment des propriétés de transport, vu les différentes longueurs qu'on a ici, il va être plus aisé d'avoir un transport balistique dans les composés dont je parle par rapport à un transport diffusif dans un métal. Et puis évidemment, la grande différence est la statistique puisqu'on a affaire à des bosons et des fermions. Donc, ce qui est intéressant à basse température, c'est qu'on va pouvoir avoir un certain nombre de... une certaine proportion du transport thermique qui est balistique. Et ça va nous permettre de manipuler les transferts de chaleur dans ce type de système. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les transferts de chaleur vont pouvoir être donnés par le modèle de Landauer à basse température. On va avoir des signatures quantiques de la conductance thermique, en tout cas on va les chercher. On va pouvoir voir est-ce qu'on est dans ces régimes-là ou pas. Et puis on va pouvoir s'amuser à modifier le transfert de chaleur par la nanostructuration, hein, en choisissant la nanostructuration de façon efficace. Et par exemple, je donne ici un exemple, c'est la diode thermique. C'est quelque chose qui excite pas mal les chercheurs dans cette communauté à l'heure actuelle, où si on établit un gradient de température entre deux points dans un système, on n'aura pas le même transfert de chaleur quand on a T1 supérieur à T2 ou quand on a T2 supérieur à T1. Ici, on voit le flux de chaleur qui a été calculé dans... Donc ça, c'est le papier de Chris Dames que vous pouvez trouver ici. On n'aura pas le même flux de chaleur entre un gradient positif et un gradient négatif. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Il faut déjà qu'on ait un transfert de chaleur qui soit balistique dans ce type de système, et puis qu'on ait des effets non linéaires forts dans notre système. Et le fait de mettre, par exemple, des petites pyramides dans notre conducteur de chaleur va diffuser les phonons de façon relativement différente entre la partie... En fait, le transfert de chaleur, il se fait entre le contact 1 et le contact 2. Et cette dissymétrie de ces diffuseurs peut introduire un gradient de température différent dans ces deux cas. Donc, cette idée de manipuler la chaleur nous amène à essayer de voir comment on peut obtenir à partir d'un matériau qui pourtant est monocristallin, est-ce qu'on peut obtenir un matériau qui est beaucoup plus isolant thermique que le matériau massif. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Je fais un lien ici, évidemment, avec la thermoélectricité. Comme on l'a dit, le coefficient ZT qui caractérise la performance d'un matériau thermoélectrique est relié aux propriétés électroniques, ici, le facteur puissance, le sigma S carré, ici, sigma est la conductivité électrique, est divisé par la conduction thermique totale, qui contient évidemment une partie électronique, mais aussi une partie phononique. Et par conséquent, si on arrive, en particulier à température ambiante, où les phonons dominent très largement le transfert de chaleur, si on arrive à tuer cette partie phononique, on arrivera à obtenir des matériaux qui sont beaucoup plus performants. Donc voilà, ça c'est un peu l'objectif général, on va dire applicatif, mais ça amène à des questions sur la physique des phonons qui sont extrêmement fondamentales et extrêmement amusantes. Donc je vais passer aux mesures thermiques. Alors pour introduire un peu ces mesures thermiques, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Les premières mesures de transfert de chaleur remontent à Guillaume Amonton, qui au XVIIe siècle a fait les premières expériences de transfert de chaleur. En fait, elles consistaient à chauffer un côté d'un barreau et à s'apercevoir que l'autre côté du barreau augmentait en température. Mais comme à l'époque, il n'avait pas de thermomètre, il était difficile de faire des expériences qui étaient quantitatives. Et puis, les premières expériences quantitatives sont dues à Joseph Black, qui le premier a compris le concept de chaleur latente grâce à l'apparition du thermomètre inventé par Fahrenheit. Et donc, à la fin du 18e, on a compris le concept de chaleur latente, et ça va être crucial, parce que c'est ce concept-là qui va permettre à Laplace et Lavoisier d'imaginer les premières expériences de chaleur spécifique. Alors, je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette histoire des mesures de température, de lire ce petit traité qui est extrêmement intéressant, publié par Lavoisier et Laplace en 1780. Et donc, dans cette expérience, qui est le premier calorimètre inventé dans l'histoire des sciences, consistait en plusieurs... je vais aller vite, mais c'est très, très simple. Une première enceinte dans laquelle ils vont mettre le matériau dont ils souhaitent mesurer la chaleur spécifique, une deuxième enceinte dans laquelle il y aura de la glace fondante qui est installée, et une troisième enceinte qui permet d'isoler thermiquement la totalité du système. Et donc, ils vont installer un corps qui est à une température de la température ambiante plus un certain gradient de température, donc un corps chaud à l'intérieur. Ils vont le laisser thermaliser jusqu'à la température ambiante. La chaleur dégagée va faire fondre la glace fondante, et en mesurant la quantité d'eau récoltée, et comme on connaît la chaleur latente, on va être capable de remonter à la totalité de l'énergie qui a été dissipée par le matériau. Et donc cette expérience-là était la première expérience de chaleur spécifique, et on va voir que c'est grâce à ce concept de chaleur spécifique que Fourier va être capable de donner les premières mesures de conduction thermique dans l'histoire. Donc cette expérience est vraiment cruciale dans l'évolution des mesures thermiques. Donc là, l'expérience extrêmement importante qui a fait suite à de nombreux essais, hein, des gens très connus comme Benjamin Franklin, Jean Gunhaus, Lecomte Rumford, qui a fait les premières mesures sur des matériaux isolants, hein, parce que les premières mesures étaient faites plutôt sur des métaux. Et donc Joseph Fourier va être le premier à comprendre qu'en fait, pour faire une bonne mesure de conduction thermique, il faut être capable de comprendre comment la température relaxe dans le temps. Et cette relaxation, le temps de relaxation caractéristique ici, est donné par ce ratio entre la chaleur spécifique et la conduction thermique. Donc ça, ce sont des choses que les premiers chercheurs n'avaient pas compris. Et quasiment tous faisaient des expériences qui étaient dépendantes du temps. Et donc, ils n'étaient que capables de comparer les valeurs entre elles de matériaux, mais ils n'étaient pas capables de donner une vraie valeur de conduction thermique. Donc grâce aux mesures de chaleur spécifique faites par Lavoisier et Laplace au siècle précédent, Fourier était capable de donner des valeurs très précises de la conductivité thermique. Voilà, ça c'est l'historique des premières mesures de conduction thermique, et c'est grâce à la compréhension de cette importance du rapport C sur K que Fourier était capable de donner les premières mesures de conduction thermique. Donc, pourquoi ces mesures de conduction thermique sont aussi peu développées finalement ou aussi difficiles par rapport à des mesures qu'on a pu faire, des mesures électriques dans les matériaux? Alors l'explication, elle réside essentiellement ici, c'est que la conduction électrique s'étage entre des matériaux très très isolants électriques et des matériaux très très conducteurs sur une trentaine d'ordres de grandeur, comme on peut le voir ici. Pour la conduction thermique, c'est très très différent, puisqu'on voit qu'entre un matériau très très isolant thermique, on va parler de matériaux où il n'y a pas d'électrons, et des matériaux très très conducteurs, il n'y a que 4 ordres de grandeur. Et par conséquent, pour être capable d'isoler la partie intéressante de ce qu'on veut mesurer par rapport au reste du bain thermique, c'est très difficile. Vous n'avez que très très peu de degrés de liberté ici pour isoler la partie qui vous intéresse et donc faire une mesure qui ne sera pas entachée d'erreur. Donc, un des gros problèmes dans l'histoire des mesures de conductivité thermique vient de ça. Alors, je vais passer maintenant à la partie mesure. Donc, nous, dans notre groupe, ce à quoi on s'intéresse, c'est à considérer des nanophiles qui peuvent être obtenus par croissance. Ici, je donne un exemple de ce qui se fait au LPN. Donc, ça, c'est plutôt une approche... bottom-up, on va obtenir des fils par croissance, par molecular epitaxy par exemple, ou des fils obtenus par top-down, où on va venir structurer de la matière par lithographie électronique. Donc, dans notre cas, c'est plutôt à ça qu'on va s'intéresser. Et donc, pour pouvoir mesurer ces nanophiles, il faut être capable de les isoler thermiquement, comme je l'ai dit, et donc de pouvoir venir mesurer que la contribution de ces nanophiles. Donc ici, ce qu'on est obligé de faire à cette dimension, c'est de les suspendre mécaniquement, ce qui les rend évidemment fragiles et délicats à mesurer, pour pouvoir venir mesurer leurs propriétés thermiques. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse évidemment? Ça va être la perte du comportement massif par la compétition entre les effets sur les surfaces et le volume. Les longueurs caractéristiques importantes qui vont être, on va y revenir, la longueur d'onde dominante et le libre parcours moyen. Le fait qu'on va avoir des effets thermiques qui sont proprement liés des petites échelles, en particulier la définition de la température, comment on va définir la température localement quand on s'intéresse à des très petits systèmes. Et puis comme il faut arriver à les isoler et qu'on est sur des systèmes très petits, on va être obligé de venir détecter des quantités de chaleur qui sont très faibles et des variations d'énergie très faibles. Et par conséquent, il faut absolument avoir un système qui soit très sensible au niveau des détections de chaleur et donc descendre à des énergies comme le zeptojoule, le lyoctojoule, où on va être capable de détecter des énergies très très faibles liées à au fait que les échantillons ont des très faibles masses. Donc, pour arriver à des expériences extrêmement sensibles, on va évidemment plutôt travailler avec des techniques qui sont basées sur des oscillations de température pour pouvoir faire des détections à base de lock-in, de détection synchrone et venir détecter des événements qui sont très faibles. Et donc le premier, ça c'est encore une petite page d'histoire, le premier à avoir proposé de mesurer les propriétés thermiques par des oscillations de température est Orso Corbino, donc au début du XXe siècle. Donc en fait, toutes les expériences qui ont été proposées par la suite, par Sullivan et Seddle ou par Cahill, étaient en fait une extension de ces travaux-là. Donc on va utiliser bien sûr donc, ces mesures par oscillation de température. Donc ce à quoi on s'intéresse, c'est à venir mesurer les propriétés thermiques, par exemple, de ce nanofil suspendu entre deux bains thermiques. Et pour ce faire, on va évaporer un thermomètre sur toute la surface, le thermomètre ici est en rouge, sur la surface de ce nanofil en silicium qui est suspendu ici. Donc pour faire ça, on va appliquer un courant oscillant aux bornes de ce thermomètre et on va venir détecter les différentes harmoniques qui vont être générées ici en tension aux bornes de ce type de système. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on va donc dissiper par effet Joule dans le thermomètre une certaine puissance. Cette puissance va créer un gradient de température le long du nanofil. Le point le plus chaud va être au centre et on va utiliser les réservoirs ici comme référence de température. Donc, quand on va faire varier la fréquence de cette oscillation de température, on va voir qu'on va passer d'un régime où, à très basse fréquence, on est uniquement sensible à la conductivité thermique. En fait, le système est toujours dans un état quasi statique. On va dissiper de la puissance, mais la chaleur a toujours le temps de relaxer vers le bain avant de commencer une nouvelle oscillation de température. Par contre, quand on augmente la fréquence, là, on retrouve ce qu'avait évidemment compris Fourier, c'est que quand on augmente la fréquence, on va être sensible après à K et C, et à très haute fréquence, on va être uniquement sensible à la chaleur spécifique. Donc, la technique qu'on appelle la technique 3 oméga consiste à venir mesurer la troisième harmonique générée par le système. La première harmonique, en fait, est liée à la loi d'Ohm, et la troisième harmonique est totalement donnée par les propriétés thermiques. Et donc, on va venir mesurer la troisième harmonique aux bornes de ce thermomètre, qui est donnée par toutes les propriétés, évidemment, du thermomètre, plus la contribution de la conduction thermique. Donc, en regardant la variation en fréquence de notre signal à 3F, on est capable de remonter à la conduction thermique, en particulier à basse fréquence. Donc, c'est ce que nous avons fait sur nos nanofils. Ici, je présente un certain nombre de mesures de conduction thermique ici. Donc on a la conductance thermique en fonction de la température et on voit donc qu'on a une certaine variation en température de la conduction thermique. Cette variation de conduction thermique, elle est avec une loi qui varie entre T2 et T3, ce qui est relativement attendu donc à basse température. Et ce que nous voyons, c'est que quand on a différentes géométries, ici on a différentes longueurs de système et différentes sections, on voit qu'on n'a pas évidemment tout à fait les mêmes valeurs de conductance thermique. Et ça, c'est normal, c'est attendu, puisque on va avoir des effets différents des surfaces dans nos systèmes. Et donc, l'objectif est de comprendre ces différentes contributions et aussi de comprendre comment, ici, j'ai tracé la valeur de la conductance thermique universelle, qui est de la même façon, comme l'a expliqué Antoine Georges, qui est donnée par quatre canaux de conduction. on voit qu'en fait, nous ne sommes pas dans un régime où on va être où notre conduction thermique va tendre vers cette valeur universelle. On mesure des conductions thermiques qui sont largement inférieures. Et donc, une des questions, c'est pourquoi on mesure des conductions thermiques largement inférieures à cette valeur universelle. Donc, pour pouvoir interpréter ces données, il va falloir s'intéresser aux mécanismes de transfert de phonons à basse température. Et donc, pour bien comprendre ça, je vais revenir à... je vais vous expliquer ce modèle de Casimir-Zeeman que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est indispensable à comprendre pour qu'on puisse interpréter ces données. Donc, le premier concept très important, c'est le concept de l'hyperparcours moyen. Et pour tout ce qui est transfert d'énergie, on va uniquement s'intéresser au l'hyperparcours moyen inélastique, c'est-à-dire au moment où le phonon va céder de l'énergie au reste du bain de phonon. C'est le concept important quand on va chercher à comprendre le transfert de chaleur. Donc, il y a différents types de scattering qui vont nous intéresser, mais le plus important quand on est à très petite dimension, ça va être la diffusion sur les surfaces du conducteur, parce qu'en fait, à très basse température, il n'y a quasiment pas, évidemment, dans un système où il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas d'interaction électron-phonon, il y a très peu d'interactions avec des impuretés, et donc, en fait, les l'hyperparcours moyens dans le matériau massif sont centimétriques. Et donc, quand on structure un matériau à petite échelle, on va essentiellement créer de la diffusion sur la surface. C'est-à-dire que les phonons vont pouvoir se transmettre librement jusqu'à ce qu'ils interagissent avec une surface. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder, d'aller étudier l'équation de Boltzmann qui va nous donner le transfert d'énergie dans nos systèmes. Et on va s'intéresser à cette intégrale de collision qui est essentiellement donnée par l'hypothèse du temps de relaxation, où on a un certain temps de relaxation qui est lié à la diffusion sur des centres au scattering sur les surfaces. Alors, connaissant la vitesse des phonons, on peut en déduire une longueur un l'hyperparcours moyen. Donc, comme je viens de le dire, comme nous avons un nanophile, les sections ici sont très très faibles par rapport au l'hyperparcours moyen qu'on peut trouver dans le matériau massif. Et le modèle de Casimir a fait l'hypothèse que en fait, les surfaces allaient se comporter comme des corps noirs. Les phonons qui allaient percuter la surface allaient être absorbés et réémis de façon isotrope dans toutes les directions avec une énergie donnée par la loi de Planck. Et donc, quand on fait ce type de modèle, on est capable de calculer une conduction thermique qui est donnée par un certain nombre de paramètres qui sont universels, et puis la section et la longueur du conducteur multipliée par un l'hyperparcours moyen qui est donné par le diamètre en fait, du nanophile. Donc, il fait l'hypothèse relativement simple de dire que le l'hyperparcours moyen est donné par la dimension la plus petite en fait, de mon conducteur. Et ça nous permet de calculer la conduction thermique. Donc, le premier commentaire qui est extrêmement important ici, c'est qu'on voit que le concept de conductivité thermique, une valeur qui serait intrinsèque à un matériau, ici n'est plus pertinente, puisque la conduction thermique est donnée par un l'hyperparcours moyen qui dépend de la géométrie du matériau. Donc ça, c'est la première chose extrêmement importante dont il faut se souvenir, c'est qu'on ne va plus parler de conductivité thermique, puisque ce n'est plus un concept pertinent, il faut parler de conductance thermique et comparer des matériaux, comparer des mesures qui auront été faites sur des nanophiles dont on doit enlever la partie géométrique. Donc quand on descend plus bas en température, on revient à cette longueur d'onde dominante. Nos phonons vont avoir des longueurs d'onde de plus en plus grandes. Et par conséquent, la rugosité ici des surfaces va commencer à jouer un rôle. Et quand on considère des longueurs d'onde, comme par exemple dans le silicium, 100 nanomètres à 1 Kelvin, ce sont des longueurs d'onde qui vont commencer à être grandes par rapport aux rugosités des matériaux. Et par conséquent, on va avoir une certaine probabilité d'avoir de la diffusion spéculaire de ces phonons sur les surfaces. Les surfaces ne vont plus être totalement diffusives et on va avoir à tenir compte pour le calcul du libre parcours moyen, de ces diffusions spéculaires sur les surfaces, et ces libres parcours moyens vont être de plus en plus grands quand on diminue la température. Et ça, c'est important, c'est pour ça qu'après, on va finir par rentrer dans le régime balistique, évidemment. Donc, Zeeman va introduire un paramètre qui est relativement intuitif, qui est de dire, je vais avoir une certaine probabilité d'avoir des réflexions spéculaires sur mes surfaces à basse température. Cette probabilité peut être égale à zéro, à ce moment-là, je retrouve le modèle de Casimir, c'est-à-dire que les longueurs d'onde sont beaucoup plus petites que toutes les rugosités, je suis dans le régime diffusif pour les surfaces, et puis cette probabilité d'avoir une réflexion spéculaire va être égale à 1 lorsque toutes mes longueurs d'onde sont beaucoup plus grandes que les rugosités. On parlera de surface parfaitement rugueuse dans le cas de P égale 0 ou de surface parfaitement lisse dans le cas d'un P égale 1. Et on va utiliser ce paramètre P pour recalculer un libre parcours moyen effectif ici, qui est le libre parcours moyen de Casimir tel qu'on l'a défini précédemment, multiplié par un coefficient qui évidemment tend vers l'infini quand P tend vers 1. Et ce paramètre va nous permettre de recalculer la conduction thermique à basse température, où on va venir renormaliser en fait ce libre parcours moyen pour tenir compte en fait de la des rapports de la variation en température de la longueur d'onde. Alors pour donner quelques chiffres, par exemple dans le silicium, ici on a fait le calcul du paramètre P en fonction de la température, puis ça nous a permis de calculer le libre parcours moyen, et on voit que quand on décroît la température, autour de 1K, on arrive déjà à des libres parcours moyens qui sont micrométriques. Alors on est par conséquent sur nos fils qui font une dizaine de microns sur des sections de 100 nanomètres par 100 nanomètres, on commence à approcher le régime balistique. Alors on a utilisé ce modèle pour ajuster les mesures que je vous ai montrées il y a quelques transparents. Et pour pouvoir décrire correctement ces mesures de transfert thermique entre... Alors là, ici, c'est normé sur le quantum de conductance en fonction de la température. On a eu besoin de prendre des rugosités qui sont de quelques nanomètres, ce qui est relativement raisonnable. Avec une vitesse du son qui est un peu plus grande que celle qu'on utilise d'habitude dans le silicium, qui a tendance à faire penser que les modes longitudinaux contribuent un peu plus que les modes transverses. Mais bon, on pourra y revenir. Donc ici, on distingue en fait un peu trois régimes. Un régime relativement diffusif ici à haute température pour lequel le paramètre P est plutôt égal à zéro. On est en régime vraiment de Casimir. Un régime intermédiaire où on voit qu'en fait le régime en T cube s'affaiblit pour être plutôt en T2, où on a une contribution forte de phonons balistiques, on retrouve cette contribution en fait, de la température dans le paramètre P. Ce paramètre P dépend de la température, donc il modifie la variation de la conduction thermique en température. Et puis, un régime à plus basse température, sur lequel je reviendrai plus tard, où on retrouve un régime en T cube, et pour l'instant, cette partie-là n'est pas forcément très, très bien comprise. Donc, pour bien voir que cette théorie de Zeeman en fait, traduit bien le transfert thermique qu'on a dans nos nanophiles. Je reprends la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure avec différents types de conductivité thermique en fonction d'échantillons qui sont assez différents. Et donc, on est venu normaliser cette conduction thermique qu'on a ici par ce coefficient qui est ici pour voir si, en effet, les différences qu'on voyait ici sont uniquement des différences géométriques. Et donc, on voit que ça marche très, très bien, puisque toutes les courbes se superposent les unes sur les autres une fois que nous avons normalisé par ce coefficient que j'ai appelé bêta, qui est ce coefficient ici qu'on a devant la contribution en température. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'on a ce modèle de Zeeman décrit très, très bien nos mesures, et donc on l'utilisera dans la suite pour interpréter un certain nombre de données sur des fils qui sont plus complexes. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'a pas une saturation ici de notre conduction thermique vers la valeur de conductance thermique universelle. Ça, c'est une question qui pour l'instant n'est pas résolue. Et une des propositions qu'on pouvait avoir, c'est est-ce qu'on a une transmission parfaite de la chaleur entre notre nanophile et nos réservoirs? Est-ce qu'on a optimisé le coefficient de transmission entre le nanophile et le réservoir? Donc nous avons fait un certain nombre d'expériences sur différentes différents profils. Donc on a utilisé, comme l'a décrit Antoine Georges tout à l'heure, le même type de profil que ce qu'avait utilisé Rooks dans son expérience. On a un profil en cosinus hyperbolique au carré qui doit théoriquement optimiser, en fait, qui doit servir d'optimisation d'impédance acoustique entre notre guide d'onde et nos réservoirs. Et donc nous avons fait ces mesures de conductivité thermique à nouveau en fonction de la température sur trois échantillons pour lesquels le contact avait été optimisé. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on normalise par rapport, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par rapport à ce bêta-case, puisqu'on est obligé, vu que les géométries ne sont pas tout à fait les mêmes, on est obligé d'utiliser cette normalisation pour comparer les données entre elles, au-dessus de 1K, on ne voit aucune différence, entre un nanophile profilé et un nanophile droit. Donc on peut dire qu'au-dessus de 1K, on n'a pas tellement d'effet de coefficient de transmission. Par contre, quand on diminue la température, alors les différences ne sont pas énormes, mais en dessous de 1 Kelvin, donc ici c'est à nouveau le quantum de conductance thermique qui est tracé en pointillé, en dessous de 1 Kelvin, il y a des différences entre dans le fil noir et le fil non profilé. Hein. On n'a pas des différences énormes, en tout cas, les données expérimentales divergent totalement puisque certains fils vont être plus conducteurs que le fil droit et d'autres vont même être moins conducteurs que le fil droit, même pour des fils profilés. Donc pour l'instant, c'est un sujet qui est vraiment très ouvert sur lequel d'autres expériences doivent absolument être réalisées pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ce qui est clair, c'est qu'au-dessus d'un Kelvin, les coefficients de transmission sont optimisés autour de 1 et ne vont pas perturber la mesure de conduction thermique. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, à haute température, on est clairement dans un régime diffusif pour les phonons. Lorsque la température décroît et que les longueurs d'onde dominantes vont augmenter et que les lits parcours moyens vont augmenter, on va se retrouver dans un régime dit Casimir autour de 10 Kelvin. Puis, dans un régime de Zeeman, et en dessous de 1K, on doit rentrer dans un régime de Landauer. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on a étudié comme zone, c'est cette zone qui est comprise entre 1 et 10K, dans laquelle les héliporcos moyens vont commencer à être très grands, mais on n'est pas encore dans un régime totalement balistique. D'accord ? Donc, comment utiliser l'existence de phonons balistiques pour manipuler la chaleur ? Je vais vous donner deux exemples que l'on a réalisés récemment. Le premier exemple a consisté à dire, puisqu'on a des phonons balistiques, si on réalise une constriction sur un nanophile, on devrait être capable de bloquer la circulation de ces phonons balistiques et donc de réduire la conduction thermique. Donc ce sont des expériences qu'on a réalisées sur ce type de nanophile, vous voyez qu'ils sont suspendus. Comme le point le plus chaud est au centre, on réalise deux constrictions dans le nanophile pour être sûr d'avoir un système qui est symétrique. Donc nous avons mesuré ce type de nanophile, que l'on a comparé à un fil droit de longueur étendue identique, c'est-à-dire on a comparé ce nanophile ici de longueur donnée à un fil droit qui aurait la même longueur si on l'étendait. Et ça nous a donné ce type de résultat. Je redessine la conductivité thermique en fonction de la température. La courbe supérieure correspond au fil droit, alors que la courbe inférieure correspond au fil possédant ces serpentins. Et donc, on a une forte réduction de la conductivité thermique ici, où on a pu bloquer en fait, la circulation des phonons balistiques générés au centre du nanophile vers les bains thermiques, uniquement en établissant une constriction en fait, qui joue quasiment le rôle de miroir pour ces phonons balistiques qui sont réfléchis et qui sont piégés à l'intérieur du nanophile. En fait, si on fait le calcul de l'efficacité de ce type de constriction sur les phonons balistiques, on voit qu'on arrive à une réduction de 80% de la transmission de chaleur due aux phonons balistiques. Alors, comme on n'a pas que des phonons balistiques, mais on a aussi un certain nombre de phonons qui sont diffusifs, on n'a qu'une réduction d'un facteur 2 et pas une réduction, évidemment, beaucoup plus importante. Mais enfin, c'était déjà une première démonstration de l'action qu'on peut avoir sur le transfert de chaleur en faisant de l'ingénierie du guide d'onde à basse température. Le deuxième système auquel on s'est intéressé pour manipuler la chaleur sont les cristaux phononiques. Donc, le cristal phononique s'inspire directement de ce qu'il fait pour les photons, hein, dans les cristaux photoniques, pour lesquels on va chercher à, en nanostructurant la surface ici. Alors, il y a différents types de façons, différents types de cristaux phononiques, mais celui-là, c'en est un. Ça, ce sont des calculs qui ont été proposés par Cleland en 2001, qui sont des calculs assez simples, mais qui donnent bien quand même une bonne idée de ce qui peut se passer. Si on crée, on crée l'ouverture d'un gap dans la densité d'état des phonons, on va s'attendre à ce que lorsque la longueur d'onde des phonons, la longueur d'onde dominante des phonons correspond à cette modulation, on va tuer le transfert de chaleur par ces longueurs d'onde-là. Et donc, à une température adéquate, on s'attend à avoir une réduction significative de la conduction thermique. Alors, il se trouve que les fils que l'on était capable de fabriquer ont une longueur d'onde qui est de 60 nanomètres à 1K, et nous avons été capables uniquement de fabriquer des fils qui ont une longueur d'onde, une modulation de 200 nanomètres. Donc ce minimum de conduction thermique, on l'attend plutôt à beaucoup plus basse température, et donc on ne s'attend pas tellement à avoir des effets, on va dire, de cohérence sur le transfert thermique. Ça sont typiquement des effets de cohérence, c'est-à-dire on va venir tuer une certaine longueur d'onde. Donc on s'attend à avoir un autre effet qui a été aussi proposé relativement récemment, puisque ces papiers datent de 2008 et de 2011. Si on a une surface qui est corrugée, comme ici, qui possède des dents de scie, on va être capable de diffuser les phonons et de créer de la rétrodiffusion dans le transfert de phonons. Et cette rétrodiffusion peut amener à une forte réduction de l'hyperparcours moyen. Donc ça a été calculé par des méthodes Monte Carlo, où en fait on va envoyer, on va considérer les phonons vraiment comme des billes. Et si on envoie ces billes avec un certain angle et une certaine direction, on va être capable de calculer quelle est la probabilité pour un phonon d'être renvoyé de là où il vient. Et si on fait ce calcul, on peut s'attendre en effet à une forte réduction des hyperparcours moyens. On peut même imaginer en fait des phonons qui sont piégés, des phonons qui sont pour le coup uniquement balistiques, qui vont être piégés à l'intérieur de ces dents de scie et donc d'une certaine façon piéger la chaleur dans les dents de scie. Donc, pour vous montrer la géométrie des échantillons qu'on a mesurés, toujours il s'agit de systèmes qui sont suspendus entre deux bains thermiques, avec un thermomètre déposé en surface, qu'on va venir chauffer de la même façon que ce que j'ai expliqué précédemment. Et ici, la géométrie, en gros, c'est quelques centaines de nanomètres pour le plus petit diamètre, 300 nanomètres pour le plus grand diamètre, et des amplitudes de modulation qui font une cinquantaine de nanomètres. Alors, nous avons pu mesurer un certain nombre d'échantillons qui n'avaient pas tous la même longueur ni la même section. Donc on a ici la conduction thermique en fonction de la température. Le fil noir à chaque fois va représenter le nanophile qui n'a pas de rugosité, qui n'a pas de corrugation. Donc on va comparer toujours nos mesures à cette mesure d'un fil qui est, on va dire, entre guillemets, lisse. Et on va appliquer le même traitement aux données expérimentales que je vous ai expliquées dans les transparents précédents en utilisant la théorie de Casimir-Zeeman. Et donc, quand on fait cette normalisation ici, où on fait apparaître uniquement la contribution thermique et plus les aspects de géométrie, section et longueur, on voit que le fil noir qui représente le fil lisse conduit beaucoup mieux la chaleur que tous les autres fils corrugés. Et pourtant, ils sont tous faits avec un matériau monocristallin qui devrait transporter la chaleur de la même façon. Et donc, notre interprétation est de dire, eh bien, les corrugations qu'on a introduites créent de la rétrodiffusion et vont piéger les phonons et vont limiter le transfert thermique, et en particulier limiter, évidemment, une façon de le décrire, c'est de dire qu'on a limité le libre parcours moyen. Donc, là ici, j'ai extrait un certain nombre de données numériques sur ces fils. Donc ça, ce sont les fils corrugés de 1 à 4. Et ce qu'on voit, c'est que bon, la dépendance en température est à peu près toujours la même, entre 2,5 et 3, ça c'est relativement attendu. Et quand on calcule le paramètre P qui nous permet de faire un fit de ces données expérimentales utilisant la théorie de Zeeman, en fait, pour le fil droit, on a un paramètre P qui est très élevé, qui est proche de 1, qui montre qu'il y a une forte contribution de phonons balistiques. Et puis quand on regarde les fils corrugés, on a des paramètres P qui peuvent même être négatifs, ce qui traduit le fait que le lit parcours moyen va même être plus petit que le lit parcours moyen de Casimir qui est donné par la section. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru vraiment très original. Et donc on a cherché par des méthodes Monte Carlo à venir décrire ces résultats expérimentaux. Donc ici, ce que je montre, c'est le lit parcours moyen normalisé sur le lit parcours moyen qu'on attend dans les fils droits, dans les fils lisses. Donc ici on a le fil lisse, ici on a les autres nanofils, et on voit qu'en effet le lit parcours moyen a été divisé quasiment d'un facteur 10 par rapport à un fil droit quand on rajoute des corrugations comme ici. Et alors je l'avais peut-être mis ici. Oui, le lit parcours moyen qui est de 500 nanomètres à peu près dans un fil droit, ici se retrouve à être entre 57 et 200 nanomètres, avec des fortes variations entre ces différents matériaux. Mais ce qui est toujours clair, c'est que le transfert thermique est fortement affecté par ces corrugations. Et donc, notre interprétation, c'est de dire il n'y a pas d'effet cohérent, d'effet d'ouverture de gap dans la densité d'état. Par contre, les phonons sont rétrodiffusés fortement par la présence de ces corrugations. Et ici, la modélisation qu'on a utilisée Monte Carlo, on a fait plusieurs types de paramètres P, donc on a pris plusieurs rugosités locales. Il faut séparer le paramètre P que je vous ai montré précédemment, qui décrit, qui est un fit relativement simpliste de toute la conductée thermique. Ici, le paramètre P qui intervient, c'est vraiment la rugosité locale qu'on considère le long, sans tenir compte de la rugosité macroscopique artificielle qu'on a rajoutée. Donc on a pris différents types de rugosité, des fils qui sont très très diffusifs, comme ici, ou des fils très très balistique avec un P égale 1, et on arrive bien à retranscrire la tendance de ce qu'on a observé, sauf pour le fil C4, où là, vraiment, la conductivité thermique est beaucoup plus faible que ce à quoi on s'attend. Mais ça donne déjà une bonne description de ce qu'on voit. Pour en donner une illustration un peu plus visuelle, le lit parcours moyen qu'on a mesuré dans les fils corrugués, ici, est en bleu, à l'échelle des nanofils, par rapport au lit parcours moyen Casimir, qui est la section, et au lit parcours moyen dans les fils lisses, tels qu'on l'a mesuré, on voit quand même une très 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 forte réduction de ce lit parcours moyen, uniquement par l'addition de ces rugosités. Un lit parcours moyen qui est même plus petit que la limite Casimir. C'est comme si on restaurait du transport diffusif dans ces matériaux. Donc ça, c'est un résultat que je trouve assez amusant, et qui donne un peu des perspectives sur qu'est-ce qu'on peut faire pour manipuler la matière, on va dire, à température ambiante et retrouver ce type de réduction de conduction thermique dans des matériaux qu'on destine à des applications thermoélectriques. Donc là, je vais vous donner quelques illustrations. Je crois que ce n'est pas la peine que je revienne sur ça puisque tout le monde a bien compris le fait qu'on veuille réduire la conductivité thermique. Donc, un des sujets sur lesquels on travaille à l'heure actuelle, dans mon groupe, c'est de travailler sur des matériaux ici qui sont du germanium, la matrice étant germanium avec des nano-inclusions de germanium manganèse. Donc l'idée est de partir sur des matériaux, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas des matériaux qui sont rares ou qui sont dangereux pour la santé. On va essayer de travailler avec le germanium. Bon, le germanium est beaucoup plus rare que le silicium, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas fabriquer ces matériaux en silicium. Une des autres perspectives du projet est évidemment de travailler aussi pour obtenir le même type de matériaux avec du silicium, puisque évidemment ce sera encore moins cher. Et donc l'idée, ce sont des matériaux qu'on obtient par épitaxie, par jet moléculaire, donc ce sont des matériaux parfaitement monocristallins. Ici vous avez une image thème de ce type de matériaux. Je vous ai tracé le lit parcours moyen électronique ici, enfin 10 fois le lit parcours moyen électronique à comparer au lit parcours moyen phononique qu'on a dans la matrice de germanium pur. Donc on part sur des matériaux où, évidemment, le lit parcours moyen à température ambiante est très grand dans le germanium, puisqu'il y a peu de diffusion dans le germanium monocristallin. Et par là, ce qu'on souhaite faire, c'est que par l'ajout de ces nanoparticules à l'intérieur de cette matrice, on va chercher à tuer le transfert de phonons. Alors, au lieu d'avoir quelque chose de régulier, comme ce que je vous ai montré dans les fils corrugués précédemment, ici, on va chercher à avoir un effet encore plus fort, où on va avoir des nanoparticules de tailles différentes à des distances différentes pour venir tuer un plus grand nombre de longueurs d'onde que ce qu'on fait avec une longueur d'onde unique donnée. Et Et donc, par conséquent, la présence de ces nanoparticules réparties dans cette matrice a pour but de venir tuer la conduction thermique dans ces matériaux et sans affecter évidemment les propriétés électroniques. Donc on va travailler avec une matrice de germanium qui est dopée. Hein, le manganèse qui se trouve dans ces nanoparticules sert de dopage aussi pour cette matrice. Donc on a des CBEC qui ne sont pas négligeables, qui vont être de 200 à 250 microvolts par degré, donc des CBEC qui sont très conséquents. Et on va chercher à venir tuer, alors ça c'est une modélisation simple qu'on a faite de ce type de matériaux, entre la conduction thermique du germanium dans une couche de 100 nanomètres ici, sans inclusion, on calcule qu'on s'attend à avoir à température ambiante une réduction au moins d'un facteur 10 sur la conductivité thermique par l'addition de ces inclusions. Voilà, donc ça, ce sont des expériences qui sont en cours. L'objectif est de venir mesurer les propriétés thermiques de ces couches ici qui sont prises en sandwich entre du germanium et notre thermomètre. Et la difficulté ici, c'est qu'on, pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de suspendre mécaniquement cette couche de germanium manganèse. Et donc, on doit appliquer des techniques qui sont la méthode 3 oméga classique, mais qui est beaucoup plus pénible à mettre en œuvre. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de mesurer ces couches de germanium manganèse. Et les premières mesures, donc on a mesuré la couche de germanium. On trouve la conductivité thermique typique du germanium, qui est de entre 40, 45 et on va dire et 50 watts par mètre par casse. Ce sont des matériaux qui sont des très bons conducteurs thermiques. Et les premières mesures qu'on a commencé à faire sur ce type de matériaux, où on cherche à diffuser toutes les longueurs d'onde des phonons, on trouve pour l'instant des conductivités thermiques qui sont comprises entre, on va dire, 4 watts par mètre par cas et une dizaine de watts par mètre par cas. Donc ce n'est pas encore optimisé. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à jouer sur la taille des inclusions pour être vraiment dans la zone la plus intéressante en termes de diffusion des phonons, pour obtenir des conductivités thermiques qui doivent être de l'ordre du watt par mètre par cas, pour obtenir un ZT qui va être de l'ordre de, on va dire, entre 0,5 et 1. On n'est pas encore dans des ZT qui sont faramineux, mais au moins être capable d'obtenir des matériaux qui ne sont pas dangereux pour la santé et qui ont des propriétés thermiques très intéressantes, et qui puissent être implémentés dans des modules thermoélectriques. Donc ça, c'est l'objet du projet européen Merging que l'on a, où l'objectif est vraiment d'arriver, à partir de ce matériau, à des modules que l'on chercherait à commercialiser. Voilà. Alors, pour finir un petit peu sur les perspectives de tous ces travaux, l'objectif maintenant, puisque je vous ai dit qu'on était limité en dessous de 1 Kelvin, on s'aperçoit qu'en fait, si on revient à ce que je vous ai montré à un moment dans le séminaire, où on s'attend à des libres parcours moyens qui sont beaucoup plus grands que le micromètre en dessous de 1 Kelvin. On ne peut décemment plus appliquer la méthode expérimentale que l'on utilisait ici, la méthode 3 oméga, parce que dans cette méthode 3 oméga, on suppose qu'on peut définir localement la température. Or, quand le libre parcours moyen est beaucoup plus grand que la taille du nanofil, ça n'a plus de sens du tout. Donc la seule chose qu'on va être capable de faire, c'est définir la température d'un réservoir R1 et la température d'un réservoir R2. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est faire, dans le régime balistique, du transfert thermique entre les deux réservoirs. C'était l'expérience de Roux, comme l'a montré Antoine tout à l'heure. Et donc nous, maintenant, nous pensons que nous sommes suffisamment matures sur ces expériences pour pouvoir aller dans ce régime quantique. Et donc, je vous montre les premiers capteurs qu'on est capable de fabriquer à l'heure actuelle. Donc, ce sont des petites membranes en nitrure de silicium extrêmement fines, puisqu'elles font entre 50 et 100 nanomètres. Ici, ce sont des capteurs qui sont dédiés à la mesure d'abord de la chaleur spécifique pour être capable d'estimer cette donnée qui nous est indispensable après dans la suite de nos expériences. Et puis, le capteur ultime est celui-ci, pour lequel nous avons deux plateformes sur lesquelles nous avons des chauffages et des thermomètres. Ces deux plateformes sont reliées par un nanofil ici, qui a aussi les profils pour améliorer les coefficients de transmission. Et donc, dans les mois qui viennent, nous devrions être capables de faire des mesures dans le régime balistique pour venir mesurer est-ce qu'on a effectivement cette valeur universelle de transfert thermique à basse température et tester le modèle de Landauer dans ces systèmes. Et pour ça, il faut être capable d'aller détecter des quantités d'énergie très très faibles. Et donc, c'est vers quoi nous nous dirigeons. Voilà. Et puis, bon, en conclusion, je vais plutôt vous parler de la structuration de cette communauté autour de la nanophononique. Donc, il y a il y a déjà eu deux conférences phononiques, une aux États-Unis et une en Égypte. La prochaine aura lieu à Paris en 2015, qui traite vraiment de tous ces aspects diffusion de phonons à petite échelle. Quels sont les mécanismes de transfert de phonons quand on cherche à les manipuler à l'échelle du nanomètre. Et puis en 2017 en Chine, si cela vous intéresse, il y a même la création d'une Phononic Society. Donc c'est un peu comme dans Bernard et Bianca, il y a toujours une société qui traîne. Voilà. Alors, toutes ces expériences ont été possibles grâce au support technique que l'on a à l'Institut Néel, parce qu'il y a beaucoup de nanofabrication, il y a beaucoup d'électronique bas bruit, et puis de cryogénie. Donc, on a le support de tous ces services pour toutes ces expériences. Les résultats que j'ai montrés sont issus de la thèse de Christophe Blanc, de Hossein Ftouni et puis de Yangqing Liu, et puis précédemment aussi de Jean Savin et Rond. Les derniers capteurs que je vous ai montrés ont été développés avec Kunal Lula et Dimitri Tainov, qui sont des postdocs. Et puis, on remercie évidemment toujours les supports financiers. Et je vous remercie, vous, pour votre attention.